Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis que Par les temps qui courent continue. En 2019, ça fait plaisir, tous les soirs, on écoute les artistes pendant 1 heure. Et ce soir, on a le plaisir de recevoir le comédien Laurent Lafitte.
Un tango, une danse, un baiser.
Du bouta, pépé, pépé.
Par les temps qui courent.
Ça y est, plus 21.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Ce qui est bien dans un film, c'est quand il y a à boire et à manger, à voir et à penser. Et ce qui est bien dans un rôle, bah c'est pareil, quand il y a de l'ambiguïté, une lecture un peu brouillée et de la profondeur. Votre personnage et le film « L'heure de la sortie » de Sébastien Marnier offrent ça. Un professeur se jette par la fenêtre, en pleine classe, en pleine canicule et en pleine crise écologique aussi. Et vous interprétez celui qui prend sa place devant des élèves surdoués et étranges. Cette étrangeté contamine peu à peu le film, comme les cafards dans l'appartement, les cauchemars, la sueur et la découverte d'une violence plus menaçante de jour en jour parce qu'elle est collective. Arthur Rimbaud, Joseph Kafka, Vertige des ruines, Marée noire et soleil plombant, sourde dans ce film qui sort ce mercredi en salle. Bonsoir à vous, Laurent Lafitte.
Bonsoir.
Sorti en janvier 2019, est-ce que vous avez un vœu pour cette année qui commence? Faut respirer, faut se concentrer,
ouais,
parce que c'est important.
C'est un début d'année très compliqué, hein, pas que pour l'exécutif. l'apaisement, mais pas l'apaisement du consensus. L'apaisement des solutions.
L'apaisement dans la conflictualité, alors?
Dans la solution. Trouver des solutions.
Donc vous formulez direct un vœu pour le collectif?
Oui.
Pas du tout de rien pour vous, rien pour...
Non, enfin non, mais je réponds à votre question spontanément. Je peux en faire aussi des personnes des plus individuelles, mais... C'est pas ce qui m'est venu.
D'accord. Donc un petit peu d'apaisement pour 2019.
Oui, voilà.
Très bien. C'est tout ce qu'on souhaite à tout le monde.
Notre biosphère est sacrifiée pour que les riches des pays comme le mien puissent vivre dans le luxe. Ce sont les souffrances du plus grand nombre qui payent pour le luxe du plus petit nombre. En 2078, je célébrerai mon 75e anniversaire. Si j'ai des enfants, ils passeront peut-être cette journée avec moi. Peut-être qu'ils m'interrogeront sur vous. Ils vous demanderont peut-être pourquoi vous n'avez rien fait pendant qu'il était encore temps d'agir. Vous dites que vous aimez vos enfants par-dessus tout. Et pourtant, vous volez leur avenir sous leurs yeux. Tant que vous ne commencez pas à vous concentrer sur ce qui doit être fait, plutôt que sur ce qui est politiquement possible, il n'y a aucun espoir. Nous ne pouvons pas résoudre une crise sans la traiter comme une crise. Nous devons garder les combustibles fossiles dans le sol et nous devons mettre l'accent sur l'équité. Et si les solutions au sein du système sont si impossibles à trouver, nous devrions peut-être changer le système lui-même. Nous ne sommes pas venus ici pour supplier les dirigeants du monde de s'en soucier. Vous nous avez ignorés dans le passé et vous nous ignorez à nouveau. Les excuses, c'est fini et nous manquons de temps. Nous sommes venus ici pour vous faire savoir que le changement s'en vient, que vous le vouliez ou non. Le vrai pouvoir appartient au peuple. Je vous remercie.
Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette petite vidéo de Greta Thunberg à l'occasion de la COP24 en 2018. Ouais.
Oui, oui.
Et on commence par ça parce que le sérieux de cette adolescente peut renvoyer au grand sérieux très étrange des adolescents face auxquels vous vous trouvez dans le film L'heure de la sortie. Est-ce que ça a participé au choix de ce scénario et au choix de participer au film, cette thématique-là, Laurent Lafitte?
Ah ben complètement oui, parce que c'est le sujet du film. C'est un film assez engagé, assez politique, et c'est ce que j'aime dans le cinéma d'auteur, qui est vraiment comme une spécificité française. Et puis ce qui m'intéresse aussi au cinéma, c'est l'efficacité. J'aime au cinéma ressentir des émotions. Là, on est quasiment dans le film de genre, donc c'est au-delà de la, c'est vraiment au-delà de la sensation, quoi. C'est vraiment, j'aime cette efficacité-là qui est mise au service d'un propos. Et quand il y a et du cinéma et de la sensation de cinéma et du propos, j'y vais sans réfléchir. Pour peu que le personnage m'intéresse et que quand je discute avec le metteur en scène du film, je vois qu'on a la même vision, quoi.
Et justement, savoir s'il y a du cinéma, parce que du cinéma, il y en a dans l'heure de la sortie. Et je trouve que c'est vraiment, évidemment, l'une des choses qui fait son grand intérêt. Ça sent dès le scénario, de quelle manière?
Alors, ça se sent dès le scénario. Déjà, il y a un désir, quand je lis le scénario, j'ai une envie, presque comme quand je lis un roman, de tourner les pages et de très bêtement connaître la fin, quoi. Et puis après, quand j'en parle avec Sébastien, à la lumière de son premier film, Irréprochable, qui était déjà très très maîtrisé, très très contemporain, je trouve, dans sa lumière, dans son sens du cadre. Et là, une espèce de un faux minimalisme très très travaillé, très posé. Et c'est ça aussi qui distille l'angoisse, c'est cette espèce de calme dans la réalisation, dans le montage. Et donc, quand je superpose et l'univers de Sébastien et l'histoire qu'il vient de me proposer, et que quand on en parle, ça se rencontre, oui, c'est à ce moment-là que je sens ce que le film peut être.
Par exemple, dans le scénario, on peut lire, moi j'ai jamais vraiment lu de scénario, mais on peut lire ces premiers plans où il y a des espèces de larcènes sonores sur le soleil, où on sent que la chaleur est une chaleur effective, mais elle est aussi métaphorique, il y a quelque chose d'étrange. Ça existe déjà.
Oui, ça existe. Il installe, le scénario commence là-dessus, sur la chaleur, sur les nuques qui transpirent. Donc déjà, c'est une indication très forte, et quand c'est bien écrit, ça marche. Après, le son, c'est Zombie qui a signé la musique du film. Ils ont fait un travail formidable. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Ça fait pas mal penser à Carpenter, le synthé un peu années 80 du film de genre. Et là, ça marche vraiment très, très bien. Et je sais que, par exemple, quand ils ont travaillé cette scène d'ouverture sur la canicule, il y a un très long plan du soleil, comme c'est une espèce de zoom vers le soleil. Sébastien Marnier a demandé à Zombie, qu'est-ce que ça fait le soleil, quand le son du soleil qui transpire. C'était son indication. Donc ça, par contre, je peux pas le deviner en lisant le scénario, mais le scénario, il était bien écrit, donc j'avais une idée de ce que ça pouvait être.
Peut-être revenir sur la question de l'efficacité. C'est intéressant que vous disiez ça. C'est l'efficacité qui vous intéresse au cinéma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans vos choix, autant quand vous allez dans un registre de grande comédie, très grand public, autant quand vous allez dans un registre qui, j'espère, sera grand public pour celui-ci, mais de film qui répond à des codes de genre, qui a en effet des objectifs politiques assez assumés, des objectifs d'écriture visuelle et de dialogue aussi, vous recherchez quelque chose qui va marcher?
Alors, c'est pas une efficacité dans le terme de succès public, parce que ça, je peux pas l'anticiper.
Le prédit.
Mais en tout cas, moi, en tant que spectateur, mon baromètre, c'est l'ennui. Que ce soit un film populaire, un film d'auteur, à partir du moment où je m'ennuie, pour moi, c'est raté, quel que soit le genre, quoi. Donc, c'est en ce sens-là où je parle d'efficacité. J'ai pas envie, quand je fais un film, j'ai pas envie qu'on s'ennuie devant, et je trouve que parfois, on est surtout avec le cinéma d'auteur, on peut être un peu complaisant là-dessus, ou un peu plus endurant face à l'ennui. Et alors que, par exemple, avec les comédies populaires, on ne l'est pas du tout, quoi. Donc voilà, moi, je suis autant pour l'un que pour l'autre. C'est vraiment mon signal, quoi.
Aucune raison de s'ennuyer devant un film. Aucune raison de s'ennuyer au théâtre.
Je pense que quand on s'ennuie, c'est raté. C'est raté pour soi, enfin, c'est raté pour nous. Après, il y a d'autres gens, la personne assise à côté de vous ne s'embête pas du tout. Mais moi, en tout cas, c'est vraiment c'est vraiment ça qui me déconnecte de la proposition, quoi.
Et alors, deuxième intérêt de ce choix-là, le thème politique, l'écologie, si on le dit plus vite, mais en fait, en réalité, c'est aussi la question de la responsabilité. La responsabilité d'une génération ou des générations passées à l'égard d'une génération actuelle et future. C'est de cela dont il est question dans l'heure de la sortie, d'une solution très radicale à porter à ce dissensus. Ça participe de votre choix. Pourquoi? Parce que, dans le fait de faire du cinéma, il y a une inscription dans le monde, il y a éventuellement une inscription politique aussi, Laurent Lafitte?
Bah oui, bien sûr, oui. Oui, je pense que c'est le rôle des artistes Non, je pense qu'on peut être un artiste complet en étant à 100% dans le divertissement. Et ne...
Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de politique dans le divertissement, de toute façon.
Absolument. Oui, de toute façon, tout peut être politique et tout l'est sans doute, d'ailleurs. Mais on peut toujours aborder un film de Funès de manière politique, surtout en ce moment avec les Gilets jaunes. Il a toujours fait des patrons assez caricaturaux et qu'on peut analyser de manière politique. Mais oui, tout est politique. Mais c'est vrai que je trouve ça intéressant quand on est artiste de pouvoir s'exprimer en restant dans sa fonction. Autant les comédiens qui donnent leur avis en interview sur certains événements, bon, ça peut être intéressant, mais je me sens pas très très légitime. Mais par contre, dans mes choix artistiques, pouvoir exprimer des opinions entre autres politiques. Là, je me sens à ma place.
Ouais. Parce que vous dites souvent que c'est quelque chose qui vous intéresse, que la politique vous a toujours intéressé, vous a toujours mis en mouvement, voire que ça a participé de votre émancipation. Oui. Alors, sans vous emmener sur un terrain qui serait le vôtre et personnel, mais comment vous avez, en gros, réussi petit à petit à mêler les deux, à dire, bon, ça m'intéresse profondément, et puis, comme j'en fais pas directement, bah, je vais voir comment je peux me débrouiller pour en faire autrement.
Oui, après, c'est... C'est des prises de conscience, quoi. J'ai évolué dans une famille assez bourgeoise, mais pas caricaturale du tout. C'était pas l'opulence, c'était le confort, mais c'était pas l'opulence. Mes parents lisaient le Figaro. Moi, j'ai commencé à lire Libé parce qu'on y parlait du théâtre qui m'intéressait, alors que j'arrivais pas à lire ailleurs sur ce théâtre-là. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé du coup à voir qu'on pouvait réfléchir différemment aux choses. J'ai commencé à me demander pourquoi en 1980, au mois de mai, on faisait la gueule à la maison alors que c'était la fête
à la Bastille.
Je me dis, mais est-ce que je serais de gauche alors que je viens d'une famille de droite? Tiens, c'est bizarre. Est-ce qu'on peut être de gauche quand on n'a pas été élevé comme ça? C'est en ce sens-là où je me dis que je me suis émancipé de cette manière-là, mais avec un regard très critique sur beaucoup de choses. Hein. Je suis pas de. Après, en tant qu'acteur, j'ai compris plus tard en quoi mon métier pouvait s'inscrire là-dedans.
Par exemple, dans la manière de représenter le monde.
Oui. Et puis par la manière de se mettre à la disposition des auteurs, puisque moi après tout je suis qu'un interprète, mais se mettre à la disposition des auteurs, incarner la vision des auteurs, et cette vision-là est souvent engagée, souvent politique.
L'un des autres thèmes qui est traité par ce film-là lors de la sortie, c'est une sorte de fabrique de classe dominante, d'une élite, puisque vous prenez la place d'un professeur qui se jette par la fenêtre dans une classe un peu particulière. Qu'est-ce qu'elle a de particulière, cette classe-là?
Ce qu'elle a de particulier dans cette classe, c'est qu'au sein de ce groupe d'élèves, il y a 6 élèves qui sont ce qu'on appelle des EIP, des élèves intellectuellement précoces. Et ils vont commencer à distiller une forme de paranoïa, de menace. Que mon personnage va ressentir de manière presque irrationnelle au bout d'un moment, jusqu'à se demander si c'est pas ce groupe d'élèves qui aurait poussé le prof précédent au suicide. Le prof précédent s'est suicidé devant ses élèves, ce qui est un aveu d'impuissance, et ce qui est une forme de renoncement terrible pour un professeur de faire ça devant ses élèves. Donc déjà, mon personnage intervient dans une classe qui est choquée et qui en même temps qui est confortée dans sa vision pessimiste qu'il n'y a pas de solution, confortée par cet acte tragique qu'ils ont vécu.
Et au départ, ce pas de solution, c'est pas exactement à quoi ça s'applique. On découvrira plus tard que ça a à voir avec cette espèce de mur devant lequel collectivement on s'est mis, quoi, écologiquement. Ouais. Mais au départ, ce pas de solution, il est plus sourd, on sait pas exactement. Il peut y avoir des questions de violence à l'école, d'harcèlement, même de... peut-être d'estime de soi du professeur. On a l'impression que c'est possible que ce soit tout ça, ce qui cloche, quoi.
Ouais, c'est vrai. Oui, c'est ça qui crée l'angoisse aussi, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui est à l'origine du comportement de ces élèves.
Il dit même qu'on peut dire que le scénario, il offre une possible fausse piste où on se dit peut-être c'est un film sur ça, peut-être c'est un film sur l'école,
Oui, il y a pas mal de fausses pistes. Oui, c'est vrai. Mais c'est intéressant parce que c'est ça qui crée le lien avec le personnage, parce qu'on se pose les questions en même temps que lui. C'est un personnage qui est pas très sympathique. Alors, avec Sébastien, on a fait attention à pas le rendre antipathique, mais en tout cas, on voulait pas que la connexion avec lui se fasse par son tempérament, par sa personnalité. On voulait que l'empathie soit déclenchée par les événements auxquels il allait faire face. Donc, c'est vraiment le film vraiment construit dans son axe. Et en même temps que lui, effectivement, on se pose toutes ces questions en même temps que lui.
On veut savoir où est le malaise. Je dis pas ouais. aussi, mais l'autre malaise, c'est le désir. C'est qu'on sent très rapidement qu'il y a aussi une circulation du désir qui pose problème. Alors, à la fois pour lui, parce que lui, il vit une homosexualité qui est pas extrêmement claire ni facile à gérer, mais aussi entre les jeunes gens, évidemment, dans une classe d'adolescents, le désir est aussi quelque chose qui peut faire violence. Est-ce que vous avez vu dans cette idée-là, au départ, puis la relation avec les autres professeurs, quoi. On a l'impression que oui, c'est une première piste que l'idée d'une la création d'une classe qui va diriger le monde plus tard, quoi.
Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. On a un côté usine à élite un peu. Puis il y a le personnage du directeur de l'école qui est joué par Pascal Grégory, qui lui n'est obsédé que par une chose, c'est le classement de son collège dans le Figaro Magazine, quoi.
Quitte à ce qu'on tabasse des mômes dans les couloirs.
Oui, c'est comme un dommage collatéral pour lui, quoi. Donc moi, mon personnage, il a plutôt enseigné dans des ZEP, donc il débarque là-dedans, il est un peu en terrain inconnu, quoi.
D'accord, ben merci pour cette initiative. Vous allez ouvrir vos livres à la page 77, s'il vous plaît.
Excusez-moi.
Oui.
Si jamais M. Capadis ne sort pas du coma, comment est-ce que ça va se passer pour nous?
C'est-à-dire?
Est-ce que vous comptez rester jusqu'à la fin de l'année?
Oui, c'est ce qui est prévu initialement. Pourquoi?
En fait, nous avons pris un peu d'avance dans le programme.
Et comme on a le brevet dans quelques semaines, on ne voudrait pas perdre de temps.
Non, oui, je sais, mais vous inquiétez pas. L'administration m'a communiqué vos notes.
Est-ce que vous pensez être à la hauteur?
Ça y recommence.
Quoi?
C'est trop chiant.
J'ai quand même le droit de poser une question.
C'est pas une question, ça.
Non, mais il a raison. Enfin, Monsieur Hoffman n'avait pas commencé à nous faire court.
Bon, alors visiblement, il y a un problème. Vous m'expliquez?
Monsieur, s'il vous plaît, ne perdons pas plus de temps. Commençons le cours, si vous le voulez bien.
D'accord, Apolline. Je vais quand même répondre à ta question. Alors oui, je suis peut-être un simple professeur suppléant, mais je sais très bien où vous en êtes. D'accord? T'as pas à t'inquiéter pour ça. À ce propos, votre conseil de classe a lieu à la fin de la semaine. Alors, je vous connais pas encore très bien. Donc je me contenterai de me faire le porte-parole de M. Capadis. Donc, page 77. Vous avez 10 minutes pour lire le texte de Gérard de Nerval. Puis, vous allez me dire qui est le narrateur. Ensuite, vous allez réécrire les vers 1 à 10 en remplaçant le pronom sujet « je » par « elle ». Qu'est-ce qu'il y a?
Monsieur Hoffman, on a déjà étudié ce texte. Et on ne fait plus ce genre d'exercice. En fait, on a déjà commencé à nous familiariser avec la dissertation.
Mais ça en... C'est au programme de seconde, la dissertation.
C'est ce qu'on vous disait. On l'a pris un peu d'avance.
Ça pourrait être pas grand-chose, hein. Juste une discussion sur c'est pas au programme et en fait c'est extrêmement flippant.
Bah oui.
Il y a quelque chose, une des réussites du film qui fait que c'est des scènes qui sont effrayantes. On se dit, ils sont effrayants.
Oui, c'est angoissant. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est très bien. C'est notamment grâce à eux, grâce aux jeunes acteurs. Parce que c'est vrai que c'était vraiment un des écueils, un des dangers du film, c'était d'avoir... des élèves qui seraient un peu caricaturaux, qui seraient plus dans un mode le village des damnés que des gamins qu'on peut croiser dans la rue tous les jours, quoi.
Comment ça s'est passé le travail avec eux? Qu'est-ce qui fait que tout ce film-là repose sur le fait qu'il reste une énigme pour vous, y compris quand vous commencez à approcher leur mystère, quand le personnage découvre des choses? On sent qu'il demeure assez opaque, quoi.
Oui, c'est vrai. On n'a pas travaillé ensemble, en fait, justement, peut-être. Et sur le tournage, comme ils étaient une bande, donc il y avait forcément un petit phénomène de groupe, donc ils étaient beaucoup entre eux, et moi, j'ai pas essayé de forcer ça, j'ai pas essayé d'aller un peu plus à leur rencontre, parce que je trouvais que ça servait plutôt les scènes. Ça s'est très bien passé, on s'est très bien entendu, mais j'ai pas voulu forcer les liens, quoi.
Donc ça veut dire quand vous entrez en classe, vous entrez devant des personnes qui vous sont inconnues. C'est pas des partenaires de jeu,
non.
Exactement.
Non. Enfin, ce sont des partenaires de jeu puisqu'on il faut qu'on fasse exister les scènes ensemble, mais ce sont pas des camarades de jeu, quoi.
Non mais ça change quoi? C'est intéressant quand même, Laurent Lafitte.
Bah, parce que je me dis que autant céder, quand on fait de la fiction, autant céder de la réalité. Quoi. Donc comme on se connaît pas et qu'on doit jouer les scènes où on se connaît pas, autant en profiter. D'ailleurs, dans le plan de travail, je pense que Sébastien il y avait pensé, parce que c'était les scènes qu'il avait mis en premier dans le plan de travail.
Donc ça veut dire que le malaise du professeur qui rentre dans cette classe d'élèves, il est celui un tout petit peu de vous-même, quoi, de, je sais pas, vous êtes.
En tout cas, il est aidé par le fait que dans la vraie vie, comme on dit, je me retrouve effectivement face à un groupe que je connais pas bien, quoi.
Comment est-ce que vous travaillez, je sais pas, justement, le fait de, on disait, ça pourrait très bien être tranquille et banal, hein, des élèves qui disent juste, bon, c'est pas, ouais, on n'en est pas là au programme. Mmh. Et alors, comment vous faites collectivement, quand même, avec eux, pour que ce soit un moment malaisé et pas très agréable?
Ben ça, c'est vraiment, alors là, pour le coup, c'est vraiment le travail du réalisateur, quoi. C'est lui qui va doser dans nos intentions. Qui va doser l'intensité des intentions pour que la tension soit diffuse.
Il vous disait quoi?
Je saurais pas vous dire parce que ça se fait vraiment au coup par coup. Il peut ne rien dire sur certaines prises, sur certaines scènes, dire très peu de choses, et puis sur d'autres on cherche un peu plus. Donc et puis il y a beaucoup de choses qui existent dans le film, enfin dans les films en général, et qui en fait sont pas pris en charge par les acteurs.
Comme quoi, par exemple?
Ben la tension, par exemple, la tension, on peut pas vraiment, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre en charge. Moi, ce que je peux, dans cette scène-là qu'on vient d'écouter en particulier, ce que j'ai juste à prendre en charge, c'est un type qui débarque dans cette classe et qui est décontenancé par l'aplomb de ses élèves et puis l'avance qu'ils ont sur le programme que lui avait préparé. Donc moi, ça, c'est très concret, quoi. J'ai une situation très concrète à jouer. Je peux pas prendre en charge la dimension film de genre, suspense, tout ça.
Qui va gérer au montage.
Qui va gérer au montage, voilà. La manière dont Sébastien avait décidé de rester sur le visage assez fermé d'un enfant qui m'écoute plutôt que de monter un plan sur moi qui suis en train de parler. Voilà. Ça va vraiment être du montage. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça pousserait le jeu un peu. Ben non, mais ça pousserait le jeu dans de la caricature, et on serait en train de jouer la vie, l'idée qu'on a de la scène, plutôt que de jouer à la situation.
Et de manière générale, c'est comme ça que vous travaillez?
Ah oui, oui, j'essaie toujours de surtout pas jouer ce à quoi il faudrait que la scène ressemble, de me tenir qu'à la situation au premier degré et de la manière la plus réaliste possible.
Ça veut dire être proche du texte?
Alors pas forcément. Bon là en l'occurrence oui, mais c'est pas forcément lié à ça. C'est pas forcément lié à ça. Ça peut être aussi dans une scène un peu plus improvisée ou dont on s'écarte plus du texte. Ça peut.
La situation.
Oui, la situation. Ouais. La situation, la sincérité. Ouais.
Au théâtre aussi.
Oui, au théâtre aussi. Ouais. Ouais. France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux. Avec Laurent Lafitte.
Just like an angel. I think this, the violence,
mais la violence,
it's weird that people basically push so much basically this aspect of violence while
c'est drôle pourquoi les gens soulignent tout le temps la violence. Regardez le monde autour de nous, regardez l'univers.
It's a really a very,
c'est vraiment
very violent
un monde extrêmement violent autour de nous. Regardez les autres étoiles qui explosent autour de nous et
toutes
les autres planètes. C'est tout une destruction sans cesse. Ouvrez le journal.
Basically, it's all negativity
et c'est que
on the front
des
page.
Nouvelles, des mauvaises nouvelles. Il n'y a que de la négativité, de la destruction, tout ce qu'on veut.
Violence is so much part of the world.
Fait tellement partie de notre monde.
A creation too, but destruction.
Elle fait partie de la création, mais la destruction.
Let's say 50% of the whole equation.
C'est 50% de l'équation.
Voilà, qui est clairement résumé. Paul Verhoeven, Laurent Lafitte, au moment de la sortie du film Elle, au micro d'Augustin Trapenard sur France Inter dans l'émission Boomerang, qui dit, bon, après tout le monde, comme ça, en voyant mes films, se dit, sont des objets violents, qui parlent de violence, mais regardons autour de nous, ça n'est que ça. Vous avez joué dans ce film-là.
Oui.
Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir du tournage?
Du tournage, les scènes compliquées de viol, parce que c'était long, quoi. Au bout d'un moment, j'en avais marre d'être en train de frapper Isabelle Huppert et de lui arracher ses vêtements. Bon, ça avait été très chorégraphié pour pas qu'on se fasse mal, donc. Mais bon, au bout d'un moment, j'en avais un peu assez. Mais voilà. Mais après,
parce que quoi? Parce que la violence dont il parle là et qui est une sorte de redondance de la violence du réel, ça va quoi? Pas forcément se la taper trop dans la fiction.
Ben non, mais ça je peux m'engager sur un projet qui ne traiterait que de ça, par exemple, et de passer 8-12 semaines à.
Ben c'est le cas avec le film
ça.
De Verhoeven.
Oui, bien sûr. Non, ce qui était, c'était juste, c'est après, c'est juste que un tournage, c'est 10 heures par jour, et quand vous passez votre journée à frapper une femme et à lui arracher ses vêtements, même si c'est de la fiction, moi, je suis pas du tout du genre d'acteur à se sentir possédé par le personnage. Il n'empêche que vous faites des gestes et vous y mettez des émotions, et qu'au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre d'heures et de jours, ça un peu sur ce type de scène, ça devient un peu fatigant, quoi, on va dire. Mais voilà, c'était pour le côté un peu difficile du tournage. Mais sinon, ce que j'ai beaucoup aimé avec lui, c'est qu'il est pas, il travaille un peu à d'une certaine manière à l'anglo-saxonne, sans vouloir caricaturer, mais il est pas très très directif, et il part du principe qu'à partir du moment où il vous a choisi, il a fait son travail de directeur d'acteur. Et après, sur le plateau, il donne pas énormément d'indications. Moi, de temps en temps, quand je lui en demandais, notamment sur une scène ou quand je sors de chez moi, et
peut-être faut redire un tout petit peu
le contexte. Mais c'est le personnage d'Isabelle Huppert qui a été violé par un homme masqué, et au lieu d'aller à la police porter plainte
pour des raisons biographiques,
ouais,
entre autres.
Oui, elle va créer une espèce de pas de complaisance, mais elle va se rendre presque disponible à ce que ça se reproduise, et elle va commencer à y prendre une forme de plaisir. Ça va être sa manière de prendre le pouvoir sur cette agression, et ça va devenir une espèce de jeu sadomaso, et s'avère que ce violeur est son voisin, qui est plutôt bien sous tout rapport. Et il y avait cette première scène où j'ai été démasqué la veille par le personnage d'Isabelle, et le lendemain, on se recroise pour la première fois. Elle sort de chez elle, je sors de chez moi, et c'est la première fois qu'elle sait que je sais qu'elle sait que c'est moi. Et il n'y a pas de parole, on se croise, on monte chacun dans nos voitures et on s'en va. Je ne savais pas comment jouer cette scène, je ne savais pas s'il fallait être léviter, au contraire dans la provocation, dans un sourire, je ne savais pas du tout. Donc je suis allé demander à Paul, je me dis, là il y a 20 possibilités, quoi. Donc qu'est-ce que, à ton avis, comment il réagit quand il la voit pour la première fois? Il me dit, je sais pas, c'est toi l'acteur. Donc, je trouvais ça intéressant, quoi, comme manière de bosser. Mais du coup, je me suis servi justement de cette. Je pense que mon personnage ne savait pas lui non plus comment il allait réagir. Donc, ma problématique d'acteur, je m'en suis servi pour jouer la scène, en fait. Et il m'a aidé à ça en me disant ça.
Il faut avoir drôlement confiance quand même.
Oui. Ah oui, oui, mais c'est, oui, mais c'est, oui, je pense qu'il faut être, c'est en même temps, il faut avoir confiance, mais il faut avoir confiance pour pouvoir s'installer dans le lâcher-prise. Il faut surtout pas une confiance d'arrogance ou de puissance.
Mais même cette confiance-là de laisser venir la gêne qui était la vôtre en tant que comédien et acteur.
Ouais.
Pour que ça devienne la gêne ou l'effroi ou la malaisance de votre personnage, ça veut dire que vous vous laissez un peu faire.
Oui, bien sûr. Mais je pense que, enfin, moi, en tout cas, personnellement, je trouve beaucoup de solutions là-dedans. Dans ne pas lutter contre ce qui se passe en vrai et ne pas chercher à faire, à fabriquer et laisser venir ce qu'il y a là. Quand il y a le trac, le laisser venir. Quand il y a s'en servir. De vraiment se servir du réel. Parce que de toute façon, c'est ce qu'on essaie de recréer. Donc, parfois, ça marche. Ouais.
Ça veut dire qu'il faut aussi travailler avec ce genre de réalisatrice ou réalisateur, des personnes qui, comme Verhoeven, décident que, au moment du choix d'acteur, il y a une grande partie de la direction qui est effectuée.
Oui, peut-être. Oui, oui.
Parce que quand vous trouvez face à quelqu'un de plus directif, ça donne quoi?
Ça dépend si la direction est précise et si elle m'aide à jouer. Moi, tant mieux. Hein, je suis toujours preneur. Hein. Parce que j'aime pas, mais ce qui est un peu inutile, c'est quand c'est de la paraphrase, quand on m'explique la scène, alors que a priori j'ai compris la scène.
Quand on vous encombre, quoi.
Oui, ou voilà, quand ça m'aide pas, quoi. Ou quand, alors que parfois il suffit d'un mot pour débloquer une émotion.
Qu'on prenne ce film-là avec Verhoeven ou tout autre style, le dernier avec Sébastien Marnier, l'heure de la sortie, sont des personnages qui sont très ambigus. Je disais ça en introduction, que ça participe de la richesse de ces personnages-là. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Vous disiez tout à l'heure, l'empathie, l'identification ne passe pas uniquement par la question de la sympathie et d'une adhésion. On peut dire, non pas que vous les collectionnez, mais qu'il y a une sorte d'attirance vers ça. Est-ce que c'est conscient dans vos choix? Et ça répond à quoi?
Ça répond à quoi? Je ne sais pas. Après, c'est dans mes choix, c'est-à-dire que je suis, encore une fois, qu'un interprète, donc je dépends vraiment de ce qu'on va imaginer pour moi et de ce qu'on va me proposer.
Ouais, mais après, donc, vous choisissez.
Oui, après, je choisis.
J'imagine qu'on ne vous propose pas que ce genre de personnage.
Non, mais c'est sûr qu'après un film comme Elle... On m'en propose, alors qu'avant on m'en proposait pas. Donc c'est aussi c'est une opportunité d'orienter vers des personnages différents qui m'intéressent. Moi j'aime ce métier parce que je me retrouve à me poser des questions que je me poserais pas si je n'avais pas à m'intéresser au parcours d'un personnage, quoi. Donc plus c'est, enfin, j'aime aussi quand ça s'adresse au côté sombre de l'humanité, quoi. Ça rejoint ce que disait Paul sur l'équilibre entre 50%, la moitié du monde, c'est de la violence. C'est une manière de parler du bien et du mal, peut-être, en schématisant, mais on est fait de ça, quoi. Donc, moi, ça me passionne, quoi.
Après, c'est un métier de question, le métier de comédien, d'accord?
Oui, peut-être.
Je vous ai coupé.
Non, mais c'est peut-être pas intéressant. Non, j'ai parlé de la différence, par contre, entre les deux personnages, entre le personnage de Patrick dans Elle et Pierre Hoffman dans l'heure de la sortie, c'est quand même mon personnage dans Elle est très sympathique, a priori. Le voisin.
Enfin, moi, personnellement, assez vite, je l'ai pas trop aimé, mais.
Bah, en tout cas, il affiche quelque chose de. Il propose quelque chose d'a priori avenant. Il est prêt à rendre service. C'est le voisin courtois. Alors que Pierre Hoffman, il fait pas du tout cet effort-là, quoi. Il fait pas du tout l'effort d'être sympathique. Voilà. Ouais.
Je trouve pas du tout. Enfin, je suis pas du tout d'accord.
Que Pierre Hoffman fait pas d'effort pour être sympathique.
Ah ouais, non, moi je trouve qu'il est extrêmement patient avec ses élèves qui sont effroyablement bizarres. Il dit, ah d'accord, bon, t'es en train de m'expliquer que je suis peut-être un gros bêta, ben c'est pas grave, patience, tout va bien se passer.
Oui, parce qu'il a une situation à gérer et qu'il faut qu'il installe, une autorité sans.
Il est calme face au proviseur qui est en train de lui expliquer que bon, bah, la violence n'est qu'un dégât collatéral de la réussite sociale. Moi, je le trouve assez cool.
Il s'énerve un peu quand même.
Ouais.
Non, mais il a quelque chose d'un peu austère quand même. Puis sa vie, il est un peu à un moment de sa vie particulier. Il est comme une espèce de queue de comète d'adolescence. Il vit encore dans son appartement d'étudiant. Il n'a pas fini sa thèse.
Il fume des joints sur le balcon.
Il est amoureux de son meilleur pote hétéro. On sent qu'il ne sait pas vraiment
tout
encore.
Tout ce qui est sympa. Je veux dire, tout ce qui est hyper sympa.
Peut-être, ça, c'est un langage que vous. Mais en tout cas, il est titulaire, il est pas encore
en poste.
En poste, il est. C'est un type d'un, c'est un quadra qui est pas installé, quoi. Il y a quelque chose de bancal un peu.
Et qui fait peut-être contraste avec justement l'aplomb de ces jeunes gens qui ont 15-16 ans et qui eux semblent non seulement installés dans leurs chaises et devant leur table d'écolier, mais surtout avec une espèce de vision du monde très définitive, ce qui donnera lieu à la fin du film, qui est et définitive et radicale, mais peut-être c'est là où il est, au contraire, moi je trouve assez attendrissant, c'est que il est très en galère face à des gens qui ont pris des décisions extrêmement fortes.
Alors on parlait des choses que l'acteur ne prend pas en charge. Je vous dis pas qu'il n'est pas attendrissant, et je vous dis pas qu'on n'est pas lié à lui et qu'on n'est pas en empathie avec lui, mais c'est pas forcément lié à ce que lui met en avant quand il se présente aux autres. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai abordé avec Sébastien.
En France, la notion du corps est très séparable de la notion de l'esprit. On en fait deux choses complètement antinomiques et presque contradictoires et presque en opposition, n'est-ce pas ? Mais en tous les cas, à l'école, on commence par le corps, parce que évidemment, le corps sait des choses que la tête ne sait pas encore. Et le premier engagement dans l'action du jeu théâtral est d'abord une action physique. Je suis un petit peu allergique à la recherche de son moi. Faut-il se connaître soi-même avant de connaître les autres ? Pour moi, c'est pas ça l'important. L'important, c'est d'avoir le regard de la curiosité ouvert vers le monde et ouvert dans le monde de la vie quotidienne, mais aussi dans son abstraction. Quand on est en face de la mer, ben on est en face d'une horizontale. À la montagne, on est tenté par les verticales. Il y a déjà une structure que nous offre la nature autour de nous, qui est quand même notre premier langage. On se réverbère dedans.
En 1997, pas très longtemps avant la mort de Jacques Lecoq, grand pédagogue du théâtre français, et d'ailleurs il prend la précaution de dire « En France, on a tendance à oublier que le corps sait des choses avant la tête ». Et bon, déjà peut-être pour parler avec vous, Laurent Lafitte, un peu plus de théâtre et puis de votre enseignement, mais aussi du petit détour que vous avez fait par l'Angleterre, et encore de la question du corps. Là, moi j'ai en tête le roi dans le film de Pierre Scholler, où vous parlez quasiment pas pendant tout le film, et où la totalité de votre jeu, ou presque, est prise en charge par votre regard, votre posture, la lenteur de vos gestes, la manière dont vous êtes oui ou non immobile, matérialisant l'immobilité politique, etc. Alors, peut-être, je sais pas, commencez par vous, où vous voulez, une réaction à l'archive.
Ce qui est marrant, c'est que Lecoq, il est très connu à l'étranger.
Ah bon ?
Oui, il y a beaucoup d'étudiants, notamment anglo-saxons, qui venaient prendre
son enseignement.
Ouais. Donc c'est intéressant, parce que c'est vrai que leur rapport au corps, en France, pour les acteurs, on a tendance un peu à l'oublier.
Par exemple, quoi ? Ça veut dire qu'au cours Florent ou dans votre passage au conservatoire, c'était des choses qui étaient mises de côté ou qui étaient mises après le rapport au texte ?
Alors au conservatoire, il y avait quand même des cours, Caroline Marcadet, il y avait des cours de... Bon, c'était pas vraiment des cours de danse, on pourrait appeler ça, on disait à l'époque, on disait ça expression corporelle, je sais pas si on dit encore ça, mais qui était censé aider justement à... les acteurs à aller au bout d'un geste, quoi, ou aller au bout de ce qu'on peut vouloir exprimer physiquement. Moi, ça m'a pas tellement aidé. C'est plus la danse qui m'a qui m'a aidé. Je suis pas du tout danseur, mais ça m'a aidé. En plus, je suis assez grand, j'ai des grands bras, un peu comme les orang-outans. Donc j'ai besoin de j'ai toujours l'impression que mon geste est
trop long.
Non, justement, j'ai toujours l'impression que mon geste est entier, alors qu'en fait il est réduit, ou j'ai encore le coude qui est trop près du corps, et j'ai l'impression d'avoir tendu les bras, alors qu'en fait non. Et ça, je m'en rends compte après, quand je vois des images de spectacle, je dis, ah, mais je pensais qu'au contraire, j'avais les bras vraiment écartés, j'étais vraiment totalement ouvert, comme ça. Et en fait, non. J'arrivais pas à aller au bout des gestes, quoi. Et la danse m'a aidé à ça, quoi. Mais elle m'a pas aidé à danser, hélas.
C'était pas mal.
Ouais, c'est déjà pas mal.
Et c'était quoi, la danse dans l'enseignement théâtral en France, ou c'était plutôt en Angleterre?
Non, c'est quand je suis parti en Angleterre. Parce que là, on avait de la danse tous les matins. Et il y avait le lundi, c'était claquette, le mardi, c'était modern jazz, mercredi, c'était bar au sol. C'était vraiment tous les matins, on commençait par de la danse, tous les matins.
Donc ça veut dire que ça, c'est vraiment pas une légende. Tout le monde anglo-saxon a tendance à former ses acteurs aussi ou d'abord par le corps.
Aussi, ouais. Ouais, aussi. Non, et puis ce qui était intéressant, c'était le rapport très pragmatique qu'ils ont au métier d'acteur. Parce qu'en autant au conservatoire, ce qui était très très intéressant, c'était déjà ça a
en
été
France.
En France, au conservatoire national, c'était de découvrir des auteurs. Moi, j'ai pas mon bac, j'ai arrêté les études en seconde, donc je suis pas du tout un intellectuel, et j'avais vraiment des lacunes littéraires à rattraper. Et au conservatoire, j'ai vraiment eu cette chance-là de lire, de découvrir tout un théâtre, toute une manière de s'exprimer, de parler du monde. Ça a été vraiment quelque chose d'important, très important. Et j'avais besoin en même temps du rapport pragmatique de qu'ont les Anglais, qui est on va t'apprendre à savoir faire le maximum de choses pour que t'aies le maximum de chances de décrocher les rôles. Point. Parce qu'il y a aussi cette réalité-là, c'est que quand on sort du conservatoire, ok, d'accord, mais moi, à la base, mon rêve, c'est d'être comédien. Et comment je deviens comédien, quoi?
Oui, c'est-à-dire que, bon, j'ai lu Claudel ou Molière et ou Coltès, mais forcément, oui, là, mais en casting, j'ai pas forcément remporté tout de suite la mise.
C'est ça, voilà. Donc, j'avais aussi besoin de cet aspect-là. Tous les vendredis, en Angleterre, on avait ce qu'on appelait une audition class. C'était une simulation d'audition.
On vous entraîne à un casting.
Voilà. Et il fallait préparer une chanson, une scène. Et tous les vendredis, c'était en conditions réelles. Et j'aimais bien aussi ça. J'aimais bien aussi ce côté, même si c'est pas, comment dire, artistiquement intéressant. Mais c'est pragmatique, quoi.
Parce que quoi, vous aimez bien l'idée que c'était un métier. Vous faites un métier. Vous préparez.
C'est une réalité,
métier.
Ouais. C'est un métier. Ouais. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on peut faire dans un atelier tout seul, ou c'est quelque chose. Enfin, on a besoin d'être engagé. On a besoin de provoquer du désir, de provoquer des propositions, et ça encore, quand c'est dans ce sens-là, c'est que ça se passe pas trop mal, quoi. Mais j'avais besoin, en tout cas à cette époque-là, à 20 et quelques années, d'avoir l'impression d'être armé pour décrocher des rôles, quoi.
Et ça s'est passé comment après?
Ah ben, j'ai pas travaillé du tout pendant presque 2 ans. Presque.
Merci l'Angleterre.
En sortant du bas, parce que j'étais rentré en France. C'est pour ça. Et j'ai bien ramé, là. J'ai presque 2 ans de vraiment me demander si j'allais pas arrêter, ou réorienter un peu les choses, quoi. Mais
Et pourquoi vous avez continué?
Parce que c'était mon désir le plus impérieux, quoi. Donc je m'imaginais pas encore faire d'autres choses, mais c'est ça qui a commencé aussi. J'ai commencé à écrire aussi, parce que mes amis écrivaient. Gilles Lelouch avait commencé à écrire un court-métrage qu'il avait réalisé. Lui aussi, il était motivé par cette frustration de pas décrocher de rôle. Donc il a découvert l'écriture, la réalisation. Je voyais que je me disais, oui, effectivement, il faut prendre les choses en main, et si on nous offre pas des espaces d'expression, faut se les créer, quoi.
Et après long détour, enfin plus ou moins, ouais, long, ça dépend comment. Ah, tac 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 tac, ouais, tac tac, Comédie Française.
Ouais, c'est longtemps après.
Ouais, c'est pour ça que j'ai fait un grand chemin sur la table. Oui. Hop, tac. Non, parce qu'il est l'heure qu'il est. comédie française.
Oui.
D'un seul coup, c'est quoi? C'est le retour, c'est une espèce de grand détour, parce qu'on pourrait considérer que Conservatoire National, comédie française, c'est pas très très loin.
Bah, c'est sûr que quand, enfin moi en tout cas au conservatoire, j'ai un peu en ligne de mire la comédie française.
Quoi. Déjà?
Oui, bien sûr. Ouais.
Pourquoi? Parce que c'est l'excellence.
Alors bêtement, quelque chose d'un peu bête, un peu basique, excellence, institution,
réussite.
Répertoire, oui,
dans les clous, quoi.
Voilà, une reconnaissance incontestable, validation. Plus concrètement, la troupe qui déjà à l'époque bougeait pas mal. Il y a vraiment un renouvellement dans cette troupe avec des acteurs et des actrices que j'admirais et que j'admire encore pour ceux qui sont toujours dans la troupe. Donc il y avait il y avait un désir à la fois artistique et un peu moins peut-être plus basique peut-être, je sais pas.
Et qu'est-ce que vous y avez trouvé?
J'y ai trouvé la diversité des personnalités et puis des possibilités artistiques. Parce que depuis que j'y suis, j'ai travaillé Fedot, j'ai travaillé Gogol, j'ai travaillé Marivaux, Shakespeare. Je sais pas où est-ce que je pourrais être confronté à des auteurs aussi différents. Je sais pas si ailleurs on imaginerait ça pour moi, on me proposerait ces rôles-là.
En tout cas, au coup par coup, sur des projets disparates, oui, pas dans
ça.
L'idée d'une
pas,
maison
non,
avec.
Voilà. Ouais. Mais même au coup par coup, je sais pas si j'aurais accès à ces propositions-là, si je faisais pas partie d'une troupe où ces projets-là ont lieu.
Et c'est une diversité que vous éclatez davantage en continuant de faire du cinéma, en continuant d'aller vers des projets très divers. Ça veut dire que pour vous, Laurent Lafitte, c'est l'idée d'avoir un éventail le plus large possible. C'est quelque chose auquel vous tenez très fort.
Oui, oui, oui. Mais pas comme un exploit. C'est plus par peur de m'ennuyer. J'ai pas envie de m'ennuyer, j'ai pas envie de me répéter, je veux que ça reste une passion. Mon angoisse plus que de ne pas plus avoir de travail, c'est de plus avoir envie. C'est presque plus ça, mon angoisse. Et j'essaie de surtout pas m'ennuyer et de garder cette passion que j'ai dans mon métier.
Oui, c'est marrant, vous disiez ça au tout début de l'entretien, la question de l'ennui, que vos choix, et par exemple, pour le film qui est le prétexte à notre invitation lors de la sortie de Sébastien Marnier, c'est l'idée d'une efficacité, mais aussi d'une sorte de désir qui continue d'exister. Mm-hmm. Ça vous est déjà arrivé de vous ennuyer complètement sur un tournage ou sur une scène de théâtre? Vous n'êtes pas obligé de citer de nom, évidemment.
Non, bien sûr. Non, ça m'est pas...
C'est vraiment juste une espèce d'horizon effrayant.
Ouais, c'est ça, ouais. Ça m'est pas encore arrivé, justement, parce que j'ai fait des choses très différentes. Mais quand j'ai tourné la suite des Petits Mouchoirs...
Avec Guillaume Canet,
le film s'appelle Nous finirons ensemble, qu'on a tourné au printemps dernier. Là, c'était assez angoissant, parce que je retrouvais un personnage que j'avais déjà interprété. Et pour moi, c'était stressant. J'avais l'impression de rétro-pédaler, de revenir en arrière, et j'ai mis un petit peu de temps à lâcher prise là-dessus et à me dire mais c'est génial, c'est un film qui a été vu par 5,5 millions de personnes. Il y a beaucoup de gens qui adorent ce film. Fais-leur le plaisir de recréer ce personnage sans défiance, même par rapport à ce que t'as joué entre-temps, et de se réamuser avec cette espèce de vieil ado loser. Et de se
en fait, c'est un
ça.
Rapport au temps? C'est un rapport au temps qui passe?
Ah, peut-être que c'est lié. J'ai pas jamais envisagé comme ça, mais peut-être.
Je crois vraiment que la scène finale a été la raison pour laquelle il a choisi une inconnue pour faire le film. Parce que je pense que n'importe quelle autre actrice aurait demandé énormément d'argent. Et en même temps, j'ai toujours eu l'impression qu'on allait utiliser des oiseaux mécaniques pour cette scène. Et ce n'est que le matin du début du tournage de cette scène qu'on m'a dit que l'assistant réalisateur Jim Brown m'a dit que les oiseaux mécaniques ne marchaient pas et qu'on utiliserait des oiseaux vivants. Et évidemment, j'étais morte de peur parce que j'avais vu tous ces dresseurs d'oiseaux avec des énormes gants de cuir et toutes les cicatrices et les griffes qu'on avait reçues des oiseaux. Et vous vous rappelez très bien comment ça a été tourné, ou parfaitement, je m'en souviens. Très clairement, il y avait un décor, c'était une porte, et il y avait un grillage, et il y avait un plafond. en grillage. Et à l'intérieur de cette cage, il y avait 5 accessoiristes qui portaient des très grands cartons. Et ces cartons étaient pleins de corneilles et de corbeaux et de mouettes, tous les oiseaux qu'on avait déjà utilisés dans le film. Et ces dresseurs avaient vraiment des gants en cuir énorme jusqu'au coude. Et les uns après les autres, ils me jetaient ces oiseaux pendant 5 jours. Alors au début, bon, ça allait. J'avais eu affaire déjà aux oiseaux pendant assez longtemps. Et bien sûr, il y en avait même un ou deux qui étaient des amis à moi, mais parmi les oiseaux, il y en avait vraiment des très méchants. Et au fur et à mesure que la semaine passait, je crois bien que ça a pris toute la semaine pour faire une section du film qui durait 2 minutes sur l'écran. C'était épuisant. Et pas seulement physiquement, c'était affectivement épuisant. En fait, Hitchcock sentait que c'était tellement brutal qu'il ne sortait même pas de son bureau, il n'entrait dans le studio que quand on était prêt à tourner.
Alfred Hitchcock, il n'était pas très très fier du coup sur le tournage des oiseaux. Et la comédienne qui évoque là la dernière scène et le moment où elle ouvre la porte et la confrontation avec les vrais oiseaux en fait et la peur. Tout à l'heure, vous disiez, Laurent Lafitte, finalement, pourquoi ne pas se nourrir du réel puisque c'est le réel que nous cherchons, ou en tout cas vers lequel nous souhaitons aller dans la fiction. On termine avec cet extrait-là. Bon, pour parler peut-être de ce rapport à la peur, mais aussi du cinéma. Vous disiez, en débarquant au conservatoire, vous découvrez tout un pan du théâtre qui fait votre joie, qui vous constitue, qui est important. Et la culture cinématographique, elle se construit comment et elle va vers quel goût?
Ça a toujours été par le théâtre dit populaire. Le cinéma
populaire. Ah oui, ce que je me disais avant.
Pardonnez-moi. Enfin, le théâtre aussi, ça a commencé comme ça. Mais non, parce que moi, je, quand j'étais petit, je n'allais pas, enfin vraiment enfant, je n'allais pas au cinéma. Donc, je voyais des films à la télé. Donc, c'était beaucoup les comédies de Gérard Houry. Pas que d'ailleurs, mais ça a vraiment commencé par la comédie. Et j'ai toujours construit mes goûts cinématographiques par le cinéma populaire. J'ai découvert Truffaut par Hitchcock, par exemple, puisqu'on parle des oiseaux, quoi. Je me suis dit, mais quand j'ai lu les conversations entre Truffaut et Hitchcock, je me suis dit, mais je connaissais très bien Hitchcock et pas très bien Truffaut. Et je me suis dit, mais ce réalisateur français qui m'a l'air tellement loin de ce cinéma américain que j'aime, comment ça se fait qu'il y ait cet intérêt
mutuel?
Voilà. Qu'est-ce que Truffaut fait, par exemple, dans Rencontre du troisième type? Spielberg que je vénérais. Et donc j'ai découvert, je me suis orienté vers Truffaut, j'ai découvert ce cinéma-là, donc toute une partie de la nouvelle vague par un cinéma très très différent. Mais je me suis construit je me suis plus construit sur Hitchcock que Truffaut. Du coup, j'ai un regard sur le cinéma de la nouvelle vague qui peut-être est un peu celui d'un réalisateur américain. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est intéressant, fascinant. Il y en a beaucoup de réalisateurs américains qui ont montré beaucoup d'intérêt pour la nouvelle vague. Et en même temps, je sens que c'est pas mon ADN. Je me suis vraiment pas construit là-dessus. Mais j'aime beaucoup ce cinéma-là et les héritiers de ce cinéma-là contemporain français m'intéresse beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup le travail de Christophe Honoré. Enfin bon, ils sont nombreux. Mais enfin voilà, ça s'est fait dans ce sens-là, quoi.
Ce qui vous offre pas mal de liberté d'une certaine manière.
Bah en tout cas pas de jugement préconçu et pas de chapelle. Ouais. J'aime les bons films, quoi, comme tout le monde, en fait.
Et ça boucle la boucle. On a commencé par l'efficacité, on termine par les bons films. Ouais. Merci beaucoup, Laurent Lafitte.
Merci.
L'heure de la sortie, c'est un film de Sébastien Marnier. Il sera en salle demain.
On est de plus en plus, de moins en moins considérés comme des êtres humains à part entière, plutôt comme les têtes de bébés. la bête, bébé, est plus facile à traire. Aussi, petit agneau qui t'aide encore ta mère, méfie-toi du bord des eaux troubles où l'on peut voir flotter les narines et l'œil opaque des gros reptiles à quatre pattes qui te guettent pour te happer et te croquer tout coup pris en tenaille dans les mâchoires de crocodile. Bien, crocodile.
Au son ce soir, c'était Marie Le Peintre, à la réalisation Lise-Marie Barré. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr et toutes celles qui l'ont précédée et qui la suivront en podcast par les temps qui courent. Demain, on se retrouve à 21h. Un grand merci à Jeanne Aléos, Romain Debec-de-Lièvre, Anna Baron, Lou Quevauvillier, Marianne Chasseur qui m'aide à penser et préparer cette émission. Très belle soirée sur France Culture, tout de suite le journal.
Des engraisseurs de porc qui nous sucent le cortex, on est de plus en plus enchaînés au rouage. De la machine qui s'emballe, nous entraîne en spirale vers le bas, vers le chaos. Aussi, gracile antilope, charmant facochère, méfie-toi des violents coups de queue du caïman à lunettes, le plus racaille, le plus retors des crocodiles. Crocodile, crocodile, bourrage de crâne, lavage de cerveau, crocodile, 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 ni pitié ni cadeau. Entre l'écho du crocodile. Cela dit, j'éprouve parfois, je l'avoue, une certaine sympathie pour le crocodile du Nil et le gavial de Pierre Bagny, dont la cruauté cannibale, la férocité inouïe, les classes au top de toutes les espèces en voie de désintégration. Mais si tu finis par l'avoir, tu pourras faire le beau dans les bars de Changa et Jakarta ou Bornéo, en faux léopard avec un jean en sky, une cape, un sac, des bagues et des boots et des lunettes en écaille. Ni pitié ni cadeau, mais en tenaille entre les coups du crocodile. Crocodile.